aujourd'hui des dynimes de bdikat khamet. Bdikat khamet, donc les lois qui sont liées à la vérification du khamet. Alors, comme j'ai expliqué Shabbat, faut savoir qu'aujourd'hui, on fait le ménage de Pessah depuis longtemps avant. Il y en a qui commencent avant Pourim, il y en a qui commencent le jour de Pourim, le lendemain, mais enfin, on commence longtemps avant. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque de la Gemara, c'était pas comme ça. À l'époque de la Gemara, on commençait. Il y a des gens qui faisaient la veille de Pessah. Par exemple, cette année, Pessah, c'est lundi soir, donc il y avait des gens qui faisaient toute l'abdika, dimanche soir. Pourquoi? C'est expliqué dans la Charonie, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des grandes maisons comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas autant de meubles qu'aujourd'hui. Donc c'était plus simple. C'était plus simple. Très rapidement, on faisait l'abdika. Et maximum, même ceux qui avaient des maisons un peu plus complexes, ils commençaient quelques jours avant. Ils n'avaient pas beaucoup de vêtements comme aujourd'hui, ils n'avaient pas beaucoup. Ça suffisait. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, l'abdika de Khamet qu'on fait est uniquement symbolique. C'est pour valider, entre guillemets, le travail qui a déjà été fait par les femmes et les femmes de ménage. D'accord?
Elles l'ont fait quand même.
Bien sûr qu'elles l'ont fait.
Or, c'est un problème chacun une fois.
On dit toujours les femmes.
Parce que qui c'est qui lève les meubles?
Pour rendre à César ce qui est à César. Voilà, c'est
la vérité. On n'a jamais les cartons hier. Là-bas.
Voilà. Bon, en tout cas, le rôle aujourd'hui de bdikat. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, ça fait un peu inspecteur de travaux finis. Tu viens, la classe, tu vas te dire, ah, c'est bon. Alors, dis-moi, c'est pas bon comme ça, c'est pas devenu comme ça. C'est comme ça, c'est propre. Alors aujourd'hui c'est un peu comme ça, mais il faut savoir qu'à l'époque c'était carrément, on passait, on vérifiait. On enlevait le khamet, on balayait, c'était le sort même. Amen. Ça change pas qu'aujourd'hui on a toujours l'obligation, puisqu'on doit valider, la maison. Tant qu'on n'a pas validé la maison, c'est un problème. Alariquement parlant, tant qu'on n'a pas validé la maison, c'est un problème. C'est la raison qui explique pourquoi, même si on part en voyage, on expliquera que par l'abdika, quand je vérifie avec la bougie. D'accord.
C'est le contrôle.
Je dis voilà, c'est bon, c'est ok. C'est-à-dire qu'on sait que c'est ok. Il faut un contrôle. Et si on l'a pas fait, c'est un problème. On verra quand même quand on part en voyage, il faut demander à quelqu'un de le faire, etc. On va voir que c'est pas si simple. D'accord. On ira dans les détails. Alors, cette bédika tramet. Cette bédika tramet, c'est une mitzvah des chachamim. Chachamim, c'est une mitzvah que les chachamim ont ordonné. Pourquoi? À la base, normalement, il n'y a pas à l'époque de avant l'époque de la Gemara, il suffisait d'annuler uniquement le khametz. Ça veut dire que je balaye la maison et je dis bon, au pire même s'il reste un morceau de pain, je l'annule. C'est-à-dire pour moi, je considère qu'il a plus d'importance. Donc il n'y a plus de problème puisque l'interdiction c'est d'avoir mon khametz à la maison. Si c'est plus le mien, il y a pas de problème. Seulement les khamim se sont rendus compte avec le temps, plusieurs raisons c'est expliqué dans Rashi et Tosfot au début de la Gemara Psachim. Les khamim se sont rendus compte avec le temps que numéro 1, les gens n'arrive pas à se retenir. Ça veut dire, même s'il dit je l'ai annulé, concrètement, tu l'amènes un morceau de pain devant lui à Pessah, par réflexe, il risque de le manger. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, une deuxième raison qui est expliquée dans la Gemara, c'est que les gens, aujourd'hui, n'ont plus une force d'esprit aussi forte qu'avant pour être capable de faire un vrai bitoul, de vraiment dire je l'ai annulé, pour moi, c'est comme la poussière. C'est ça qu'on dit dans le Kol Chamira. On dit pour moi, c'est comme la poussière. Il faut une force d'esprit très très forte pour ça. Et déjà, à l'époque de la Gemara, on considérait que les gens n'avaient plus cette force d'esprit. C'est pour ça que les Chachamim m'ont dit, dorénavant, il faudra enlever le Chametz de la maison pour être sûr qu'il n'y a pas de Chametz. Donc on enlève le Chametz de la maison, c'est une mitzvah de Chachamim. C'est la raison pour laquelle on fera une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hashem Kiddushenu Mevuzetav Yetzianu, Al Biur Chametz.
Parce qu'on va exterminer le Chametz. Avant, on ne faisait aucun nettoyage. Le fait de faire la bracha, ça...
On a eu trois étapes. Avant, on ne faisait pas du tout le nettoyage. On faisait un nettoyage rapide, sommaire.
Oui,
d'accord. On dit, même s'il reste des miettes, c'est pas grave, nous on les a annulés. Même s'il restait des gâteaux. On les a annulés. Après, on s'est rendu compte, comme j'ai dit, que les gens n'avaient plus la même force d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, bon, dorénavant, il faudra supprimer le khametz. Pas seulement l'annuler, il faudra le supprimer. D'accord? Après, on est parti, mais j'ai dit qu'à l'époque, ça prenait pas tellement de temps le ménage de Pessah. C'est maintenant que ça prend beaucoup de temps, parce que Baruch Hashem, c'est la largesse. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des maisons complexes, on a beaucoup de vêtements, on a des meubles, on a plusieurs lits, etc. Des choses qu'ils n'avaient pas à l'époque. Ils n'avaient pas tellement de détails dans une maison. C'était beaucoup plus simple.
Canapés.
D'accord. Les canapés, etc. Baruch Hashem. Mais les livres, enfin, prenez les livres par exemple.
Les livres, oui.
Vous n'avez pas de livres à l'époque. Maison standard, il y avait maximum 1-2 livres, c'est tout. Il n'y avait pas. Un livre, c'était manuscrit. Et donc c'est des exemples comme ça pour nous montrer que Baruch Hashem, aujourd'hui, on a vraiment une largesse. Et que bon, cette largesse, le revers de la médaille, c'est qu'il faut vérifier tout ça, le khamet, tout ça. Bon. Alors, cette bédika tramet, sinon je rappellerai les grandes lignes juste avant Pessah, mais on commence déjà à se mettre la tête dedans. Quand on fait l'abdika tramet, dès qu'on a commencé à faire la bracha albi au khamet, on n'a plus le droit de s'interrompre jusqu'à la fin de la vérification. Donc ça va durer, hein, selon, je sais pas combien de temps vous prenez pour faire l'abdika tramet.
5 minutes, 7 minutes.
Après,
un quart d'heure.
Combien de temps ?
20 minutes, 10 minutes.
On va dire entre un quart d'heure et une demi-heure. D'accord ? Et ça dépend si tu retrouves pas aussi autre chose au passage.
C'est une belle maison.
C'est bonne idée.
Ah,
c'est pour les enfants, ça, ou quoi ?
Non, c'est pas pour les enfants. Parce que...
C'est
pas vous qui devez le mettre. C'est pas vous qui devez le mettre.
À qui ?
J'ai demandé à un enfant, à votre femme de le mettre.
Après, il faut chercher.
Ah bah oui.
Encore mieux.
Bien sûr, c'est la chasse au trésor. Chasse au trésor. Je vais vous expliquer à la base pourquoi on cache des morceaux. La raison pour laquelle on cache des morceaux, c'est parce que si on trouve pas de tramètre, et j'espère qu'on n'en trouve pas, parce que... normalement, le ménage a bien été fait, la bracha est pour rien. Je dis, donc il faut trouver quelque chose, sinon c'est une bracha pour rien. Maintenant, la raison pour laquelle on a 10 morceaux, la raison pour laquelle on a 10 morceaux, c'est Alpi Kabbalah. Ça correspond aux 10 sphirotes.
Non, mais que 7.
Ce que j'ai dit, c'est Alpi Kabbalah. Alpi Alakha, même un petit morceau, ça suffit. C'est tout. Parce que ce qui compte, c'est qu'il faut trouver quelque chose. C'est tout. Donc j'étais en train de dire, une fois qu'on a commencé à faire la bracha, on ne s'interrompt plus. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce qui n'a rien à voir avec l'abdika. Par exemple, si je demande à quelqu'un, donne-moi le... Il y en a qui ont l'habitude de le faire avec la... Moi, j'ai l'habitude de faire avec la plume, avec la... Comment on appelle ça ? Avec la cuillère en bois, etc. Donc, si je dis, donne-moi la cuillère en bois qui est tombée, ça, j'ai le droit de le dire, parce que c'est un rapport. D'accord ? Mais si je dis, ça sent bon, préparez-moi un repas, ou je sais pas quoi, d'accord ? Là, c'est un problème, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as dit ?
Je me disais pourquoi tu te baisses pas pour ramasser la cuillère.
Ah,
vous êtes demandé que...
parce que j'ai une bougie dans la main, c'est peut-être dangereux. Là, moi, je connais un rave comme ça qui était très pointilleux sur la piquette ramette. Et une fois, il a brûlé une chambre.
Ah ouais.
Il est venu avec la bougie en dessous le lit, etc. C'est très très pointilleux. Alors du coup, quand on était avant, on était pas gentil. Quand on était à l'Yeshiva, quand on voulait le taquiner, on lui ressortait ça, tu vois.
Le milieu de la nuit du bien.
Non, bon, c'était vraiment quelqu'un de très pointilleux.
C'est étonnant. Oui, on a permis de faire ça. Il m'est arrivé, c'est ça, dernier, j'ai oublié un morceau.
Comment t'as oublié?
C'est vrai?
J'ai cherché.
Tu as cherché, qu'est-ce que ça fait?
Je me suis dit, j'ai dû me tromper, j'ai cherché pendant une heure.
Il y avait 11.
Pendant une heure et demie.
Ah, il fallait faire le bitoul. T'as fait le bitoul pour ça.
Je l'ai fait.
Donc t'as pas fait l'interdiction de la Torah, c'est fini.
Oui, pas de problème.
Non, mais c'est... D'accord. T'inquiète pas. Oui.
Non, indépendamment de ça, c'est étonnant, ces familles ont permis de faire ça, de faire ce côté-là, et de peur, généralement, ils ont toujours peur de mettre des barrières.
Ouais. Moi, quand j'avais 2-3 ans, hein, c'est ça, papa? Quand c'était que j'avais, je crois que j'avais mis un morceau à la poubelle? Hein? Ah, il s'en rappelle encore, mon père. Je me rappelle encore. Tu te rappelles pas où t'as mis le morceau de pain? Essaye de te rappeler. Ça. J'ai tout petit, mais ça m'a marqué. T'es sûr que tu l'as pas mis à la poubelle? J'étais tout petit, quel âge j'avais, papa? J'étais tout petit, je me rappelle, mais ça m'avait marqué. Bon, enfin. Alors, l'abdika est tramette maintenant. On va la faire à la lumière de la bougie. D'accord? On la fait à la lumière de la bougie, je vais expliquer pourquoi. On n'a pas le droit de la faire, la Gemara Ptachim, c'est que début, on n'a pas le droit de le faire, de faire la bdika tramet, c'est la lumière de la torche. Alors quand je dis la torche de l'époque, ça veut dire, c'est comme ce qu'on a pour la Havdala. Pourtant, ça amène plus de lumière, pourquoi avec la bougie? Alors parce que, c'est expliqué dans la Gemara, hein. La Gemara, elle exprime ça comme ça, elle dit que, une torche fait de la lumière par l'arrière, alors qu'une bougie fait de la lumière par l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bougie, comme la lumière n'est pas trop forte, donc je peux la mettre devant moi, ça ne m'éblouit pas. Donc elle m'éclaire. Alors qu'une torche, comme la lumière est trop forte, donc du coup, je peux pas la mettre devant pour regarder, donc je la mets derrière. Donc puisque je la mets derrière, du coup, la luminosité est moins forte, j'arrive moins à voir ce qui se passe. C'est pour ça que les Chachamim m'ont demandé de faire la lumière de la bougie. On n'a pas le droit de vérifier le Chametz à la lumière de la lune, ni la lumière du soleil, parce que ça éblouit. C'est la bougie qui me permet de voir les détails. Pour nous montrer à quel point on doit être pointueux quand même quand on vérifie le Chametz. Comme j'ai dit encore une fois, aujourd'hui, c'est plus symbolique. Tu as raison, pourquoi pas une lampe électrique. C'est symbolique. Aujourd'hui, à Alpi Kabbalah, on prend une bougie de cire, enfin, ils vendent des kits.
Ouais.
D'accord? Tout ce qui n'éblouit pas, c'est bon. Il faut pas que ça éblouisse. D'accord? Tout ce qui est clair comme une bougie, c'est cachère, c'est bon. Oui. L'habitude, c'est un minac. Donc, on n'a pas le droit de vérifier, comme j'ai dit, à la lumière du soleil. On n'a pas le droit de vérifier à la lumière du soleil, il faut vérifier à la lumière de la bougie et le soir. Parce que c'est quoi la logique? La logique, elle est que quand tout est obscur autour, et que j'amène ma bougie Et que j'amène ma bougie à côté, j'amène ma bougie, automatiquement, dès qu'il y a un problème, je le vois. Alors quand il y a du soleil, quand il y a la lumière partout, je vois pas les problèmes.
C'est ciblé, en fait.
Il y a un autre cas qui écrit...
Tu peux pas le faire le soir ?
Si, c'est le meilleur moment.
Eh ben, y a plus de soleil le soir.
Justement, on veut pas le soleil.
Eh ben, justement, pourquoi il parle du soleil, puisque c'est le soir ?
Non, justement, ce que je dis, c'est pour ça que je dis, parce qu'on verra après que l'abdi 4 à mettre, si on peut pas faire le soir, on peut le faire même la veille ou avant, ou si on part en voyage, etc.
Ah oui,
on va voir. Non. Si vous êtes là, vous le faites le soir. On va en parler doucement. Ça c'est il y a plusieurs détails. Et on va pas tirer les conclusions tout de suite. Il y a néanmoins un cas qui est ramené dans la Gemara. C'est le cas de la véranda. Arsadra, on appelait ça. C'est quoi la arsadra? La arsadra, c'est donc c'est une véranda. Ça veut dire qu'il y a la lumière du soleil qui rentre sans trop nous éblouir, de manière à ce que tout est clair à l'intérieur et que dès qu'il y a un problème, tu le vois tout de suite. Alors ça, c'est écrit que la arsadra. On peut la vérifier à la lumière du soleil. Parce que le verre va atténuer la lumière du soleil, et donc ce qui fait que j'arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais directement à la lumière du soleil, c'est un problème. Donc vous avez compris le principe. Le principe, vous avez compris, c'est que il ne faut pas qu'on soit ébloui par la lumière de la bougie, ni par la lumière du soleil, et donc la lune, c'est pas suffisant non plus. Ok. Alors, maintenant, dans l'abdi 4 à mettre, on doit vérifier, et donc c'est important pourquoi je vous parle de l'abdi 4 à mettre, parce que c'est par rapport à ça qu'on saura pour le ménage de Pessah. On vérifie tous les endroits dans lesquels il y a un risque. Donc je lis dans les mots, c'est important ça. Bodek kol amekomot sheyesh lachu shema ichnisu ba'em chametz. On doit vérifier tous les endroits dans lesquels il y a un risque qu'on a fait rentrer du chametz dedans. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Explique le Mishnah Brura, le chidouche est que, évidemment, vous parlez de la salle à manger, vous parlez de la cuisine, c'est des endroits dans lesquels il y a du chametz toute l'année. En fait, c'est évident qu'on doit les vérifier. Mais il y a des endroits dans lesquels on ne fait pas rentrer du chametz habituellement toute l'année, mais il est possible qu'une fois on l'a fait. C'est possible. L'exemple type que ramène la Gemara, c'est par exemple une cave à vin. On avait l'habitude à l'époque, quand on était en plein repas, il n'y a plus de vin, on envoie le shamash, le bédo, pour aller chercher du vin. Maintenant le bédo, c'est peut-être qu'il a son sandwich dans la main. Donc il descend. Maintenant il va se servir. Il va se servir, peut-être que sans s'en rendre compte, il va poser le morceau de pain. Et donc du coup, il y a un morceau de pain qui est resté là, ça fait je sais pas combien de temps, mais en tout cas il est là. C'est un problème. C'est assourd. Donc c'est un endroit qui n'est pas fait pour poser du chametz. Mais c'est possible qu'on a posé du chametz. Il y a un risque. Il y a un risque qui se tient, quoi. C'est possible qu'on a posé du chametz. C'est pratiquement partout. Exactement. Vous avez compris, c'est pratiquement partout. Pratiquement partout. Maintenant, bon, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont plusieurs étages dans une maison et qui savent que jamais on monte avec du chametz en haut. Jamais. Des gens qui font pesser toute l'année. Bon, dans ce cas-là, peut-être.
Oui, faut être d'accord.
Peut-être. Mais il faut vraiment s'accrocher pour être sûr, hein, parce que...
aux enfants ne rentrent pas dans la chambre avec...
Oui, mais il y a un risque une fois il l'a fait. On le sait, c'est pas parce que tu l'as dit que ça a été fait.
Pour minimiser le risque, mais il n'est pas...
Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut vérifier tous ces endroits-là. Donc c'est pour ça qu'il dit « Velachen, kol chadre abayit va'aliot » que toutes les chambres de la maison, va'aliot et les étages, « Srichim dika » il faut les vérifier. Pourquoi ?« Shepe amim adam ichnas ba'am ou pito biado » parce que des fois, un homme rentre dans ces endroits-là ou pito biado avec son pain dans la main. Donc c'est un problème. D'accord ? Il y a un autre cas qui est ramené dans Shulchan Aruch, c'est le cas des, ce qu'on appelait à l'époque les chorines, les trous qu'il y avait dans les murs. Vous savez, aujourd'hui on a des murs qui sont lisses. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était des murs qui étaient en général soit de bois, soit de pierre. C'était des pierres, très le plus souvent. Donc qui dit des pierres, dit qu'il y a des, comment on appelle ça, des interstices, des fentes, dans lesquelles on peut mettre des choses. On peut mettre des choses, d'accord ? Alors, qu'est-ce que nous dit Shulchan Aruch ? Il nous dit que ces fentes peuvent servir de stockage. Des fois, on posait quelque chose dessus. Vous ne me parlez pas d'hygiène, hein. Je sais pas comment ils vivaient à l'époque, mais en tout cas, apparemment, on posait des choses dessus. Et il y avait des fentes, on posait des choses dessus. Alors, la Gemara nous fait la différence, entre les fentes qui sont à hauteur, accessibles par un homme, et les fentes qui sont inaccessibles par un homme. C'est-à-dire, la pierre qui est tout en haut, il y a de la place, bon, dit là-bas, théoriquement, il n'y a pas de raison qu'il ait mis du chametz. Mais ce qui est accessible, là, c'est un problème. D'accord ? Autre cas qui ramène dans la Gemara aussi, c'est ce qui est accessible, mais ils avaient des fois des pierres qui étaient très profondes, et donc du coup, même si j'ai posé un morceau de pain, je ne l'ai pas posé jusqu'à tout au fond. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit que dans ce cas-là, je vérifie seulement jusqu'à l'endroit où ma main peut arriver. Je ne vais pas plus loin que ça. À l'époque, on avait également un problème, c'est que très souvent, on avait le mur qui était mitoyen avec un goy, avec un non-juif, c'était un cas classique. Et donc des fois... Hein, quand j'avance maintenant jusqu'au bout, j'arrive jusqu'à chez qui ? J'arrive jusqu'au chez non-juif. D'accord ? Et donc du coup, l'autre il voit une main en train de chercher, il va dire qu'il est en train de me faire la sorcellerie, celui-là, il est en train de me jeter un sang. À l'époque, on croyait beaucoup en ça. Donc du coup, ça risque de faire Ça risque de faire sauter, une ville, ça. On a eu des cas comme ça. Oui, il me fait la sorcellerie, il veut me tuer, etc. Alors dans ce cas-là, quand dès qu'il y a une sakana, la chamie, on dit, tu touches pas ton mur, tu le laisses tranquille, tu touches un petit peu, et c'est tout. Tu enlèves un petit peu ce qu'il y a devant, et peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Alors, un cas qui est ramené dans le Shulchan Aruch. Bon, je vous donne des cas, en fait, c'est des cas qui sont ramenés dans la Gemara. C'est toujours intéressant d'étudier ces cas. C'est, donc, il nous amène le cas d'un toit. Vous savez, les toits, comment on appelle ça? Les toits qui sont en... Comme ce qu'on a... Qui sont en diagonale. Comment on... Il y a un nom, on va donner le nom une fois. Incliné? En pointe? Bon. Alors, il est possible que quelqu'un posait du Hametz là-bas. D'accord? Mais explique, Shulchan Aruch, il dit que normalement, personne pose du Hametz là-bas, parce que c'est incliné, c'est pas un endroit où on pose quelque chose. Donc, c'est pour donner l'exemple. Un endroit comme ça, il n'y a pas besoin de vérifier. Parce que c'est pas fait pour poser du Hametz. Il n'y a pas de raison qu'il y ait du Hametz là-bas. D'accord? C'est comme, je vous demande par exemple, une boîte à chaussures. Vous avez, tu sais, une boîte à chaussures, là, les armoires dans lesquelles on met, vous pouvez mettre des chaussures. Il n'y a pas de raison qu'on ait mis du Hametz là-bas. C'est pas un endroit pour mettre du Hametz. Un endroit comme ça, il n'y a pas besoin de vérifier. C'est comme le cas du gars qui dit du toit. C'est un endroit dans lequel on ne met pas de Hametz.
Tout ce qui est sur le toit est considéré comme un moins.
Tout ce qui est
sur le toit,
oui,
est considéré comme étant un moins.
Bien sûr, c'est chez moi. Bien sûr, hein.
C'est chez moi.
Bien sûr.
C'est à qui?
Même.
La neige tombe dessus. Que ce soit personne.
Et à toi.
Sur le toit. Qui ce serait alors?
D'une maison particulière, sur le toit d'une maison particulière.
C'est un immeuble, mais non, c'est pas
à toi. Même un violon.
Ok. Alors, pour vous montrer à quel point ça va l'obligation de bdikat hametz. À quel point ça va l'obligation de bdikat hametz. On nous dit la chose suivante. Que si on avait un mur dans lequel on savait qu'on a mis du hametz. On a stocké du Hametz. Vous savez, ils faisaient à l'époque des sortes d'étagères comme ça.
Des niches.
D'accord, des niches dans lesquelles on pouvait poser des choses. On appelle ça des niches aujourd'hui ? D'accord. Donc il y a une niche dans le mur. Bon. Maintenant, ce mur s'est effondré.
T'avais une grande
maison. Oh bah oui.
Le mur s'est effondré. Maintenant je sais qu'il y a du Hametz. Hein ? Je fais quoi ?
Ah bah un kafradar.
Quoi kafradar ?
On annule.
On va prendre le risque d'aller chercher.
Alors, normalement, oui. Normalement, bon, ça vous... après si ça vous dérange pas. Ok. Alors, dans ce cas-là, nous dit Shulchan Aruch, c'est assourd de toucher les pierres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une sakana, il y avait un danger des scorpions. Donc tu touches, tu commences à toucher, tu sais pas ce qui va te sortir. C'est un peu comme l'équivalent des souris ou des rats aujourd'hui que tu touches, ne touche pas, tu touches, tu sais pas ce qui peut arriver. Un scorpion. D'accord? Alors, maintenant, attendez. Écoute, la Gemara, maintenant, à la fin du premier chapitre, te pose la question, elle dit oui, mais cette personne-là... Donc disons que, parce que le problème c'est quoi? C'est que si c'est un mur qui est tombé et que les débris sont à une hauteur moins de 3 tfachim, moins de 30 cm, on considère que c'est accessible. On te dit quand même tu touches pas. Parce que si c'est une sakana, c'est un danger. Je dis oui, mais attends, un danger. Il y a un problème. Normalement, on sait que Shluch et Mitzvah et Namizokim, celui qui est préoccupé par une Mitzvah, il n'est pas endommagé.
Ouais, mais il ne faut pas compter sur le mur.
Deux secondes. Non, je vous dis le développement de la Gemara. La Gemara dit, mais attends, laisse-le, t'inquiète pas, il va rien lui arriver, il est parti pour faire une Mitzvah. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? La Gemara dit quand même, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit quand même? Parce que il risque de continuer à bouger les pierres après qu'il a déjà enlevé le Hametz. Vous écoutez ce que... Et là-bas, c'est d'ailleurs la Gemara là-bas, c'est la Gemara là-bas qui ramène, qui dit que normalement un Shliach Mitzvah, d'accord, un Shliach Mitzvah, et non Nizok, il n'est pas endommagé, l'Oba Alichato ve l'Oba Chazirato. Par exemple, j'envoie quelqu'un faire une course, pour aller faire une Mitzvah, pour aller à un hôpital, faire une Mitzvah, je sais pas, bon, par exemple, aller amener une Matzah à une personne qui est à l'hôpital. Donc quand il va, il fait la Mitzvah. Mais quand il revient, j'ai plus la Mitzvah. Il est quand même protégé. L'Oba Alichato ve l'Oba Chazirato. Il n'est endommagé ni dans ce... À moins qu'il y ait un Xéra d'Akadosh Baruch Hu, mais il est protégé. Il a une police d'assurance d'Akadosh Baruch Hu, ni pour l'aller, non, et pour l'aller et pour le retour. Donc a priori pour cette histoire de... Donc je vous dis le développement de la Gemara. Donc a priori pour cette histoire de scorpion, normalement, quand il va enlever une pierre pour vérifier et qu'il va remettre la pierre, il devait être protégé. Pourquoi on le prend le bloc? On le bloque parce qu'on s'est dit peut-être qu'après qu'il a vérifié son Hametz, il va se dire oui maintenant j'avais trouvé des trucs, il y a des trucs, vous savez, on trouve toujours des choses. Et il va se mettre à chercher et là il est plus couvert. Donc comme les Khamis ne voulaient pas rentrer dans ce risque-là, ils nous disent écoutez, tu touches pas le Hametz, tu laisses tranquille et t'inquiète pas, personne ne va toucher. C'est pour ça que les Khamis...
Si tu as un amas de pierres dans ton jardin, par exemple,
oui.
tu dois mettre de l'ordre aussi. Tu dois,
tu te fais faire par des professionnels.
Oui, tu vois, tu peux faire en sorte qu'avant même la recherche du 3 mètres, ce problème soit réglé.
J'ai compris.
A priori.
Oui, mais bon, là, maintenant...
Non, un cas de force majeure, est-ce que tu penses qu'un scorpion peut s'installer en 3 jours?
Ah, je sais pas comment ça s'est passé.
Dans le contexte de l'époque,
ouais, c'est le contexte de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein.
Non, mais bon.
Dans le contexte de l'époque, vous avez des fois des poubelles, des bennes à poubelles, qui restaient pendant 3-4 mois. Dans la Gemara Bavamitia, on parle de ça. Des bennes à poubelles qui étaient vidées. Il y en a qui étaient vidées une fois par semaine, une fois par deux semaines, il y en a qui étaient vidées une fois par an. Et par rapport à ça, des gens cachaient des objets là-bas.
Ils
cachaient des objets là-bas.
Il
y avait des gens qui cachaient des objets dans les bennes à poubelles. Parce qu'ils disaient, c'est bon, tout le monde sera vidé dans un an. Pour montrer à quel point c'est... Bon.
Et les niches aussi, il y a un risque de scorpion. Bah
oui.
Dans les niches, là, des murs et des fentes et tout ça. Ouais. Il y avait un risque de scorpion aussi.
Apparemment, le scorpion, il monte, il peut monter.
Ah oui, oui.
Je sais pas, il se met dans les fentes des murs.
Parce qu'il peut monter.
Oui,
ouais, il monte.
Ah,
le problème,
c'est qu'il veut, tranquille.
Il rentre pas à l'intérieur des maisons. Il peut rester au soleil.
Ah, il rentre pas dans les maisons.
Ils aiment pas l'humidité, ils cherchent le soleil.
Quoi, les scorpions? Oh, ils rentrent dans les maisons.
Non.
Ok. Alors, je voudrais juste finir avec une dernière halakha. D'accord? Je voudrais juste finir avec une dernière halakha. Il nous dit ici que Batei Knessiot ou Batei Midrashot, les synagogues et les maisons d'études, Srichim Dika, on a besoin de les vérifier. On a besoin de faire la Bdika Trametz. D'accord? Donc, vérifier le Trametz. Néanmoins, c'est écrit que étant donné que c'est un endroit public, donc on est moins regardant pour le ménage. D'accord? Parce que normalement on doit vérifier le Hametz comme tout le monde. Mais étant donné que de toutes les façons c'est un Hametz qui appartient à personne en vérité. Donc il n'y a pas vraiment
l'intention de propriété.
Ça appartient à personne, ça appartient à la communauté, ça appartient à tout le monde et à personne. Donc c'est la raison pour laquelle on fait un bon ménage, d'accord? On fait un bon ménage et c'est suffisant. Mais on fait l'abdika.
Oui,
on fait l'abdika. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Parce que Mipne Shatinokot Machnissim Bahem Khamet. Parce que les enfants amènent le Khamet dans les synagogues. Aujourd'hui, c'est même les adultes, c'est bon. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les synagogues, on ne mangeait pas. Synagogue, on mangeait pas. Il n'y avait pas, ça n'existe pas. Il n'y avait pas de kidouche dans les synagogues. Il y avait une salle pour ça, mais on ne mangeait jamais dans les synagogues. Et que c'est dans les halakhot de Beit HaKnesset que le Shulchan Aruch dit qu'après, à un certain moment, on a commencé à permettre, mais à condition que la synagogue a été construite, ou bien enfin, les travaux, avec la condition que on pourra manger dedans, ou dormir peut-être. Parce que sinon, c'est à sourd. Si le tenaï n'était pas, la condition n'était pas dès le départ, on n'a pas le droit de manger. D'accord? Même somnoler, normalement, on n'aura pas le droit. On s'arrête ici pour aujourd'hui, et Bezrat Hashem, on continuera vendredi, mardi, vendredi, et...
Ouais.
Oui.
Si on quitte une maison, quelques jours avant Pessah.
On va parler vendredi. Alors, il y a plusieurs détails. Voilà.
Il y a des maisons dans lesquelles tu ne vas pas pendant un an.
Pareil, c'est du Khamed, ça t'appartient, tu la vends.
Oui, c'est là, c'est sûr que c'est moi.
Bon. C'est plus simple, tu la vends, pas de problème.
Il faut vendre,
oui, je fais, je vends.
Vous avez le guide de Pessah ici pour vendre.